Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 35e épisode de la troisième saison de Culture Sang et Or, l'émission hebdomadaire qui débriefe les matchs du Racing Club de Lens et évidemment l'actu du peuple Sang et Or. Des Lensois, encore une fois, et pas tant de caractère ce dimanche face à Lorient, pour un succès en deux temps où la maladresse a laissé place à l'assurance. On reviendra sur cette victoire en première partie d'émission. Dites-nous dès maintenant, chez vous, ce que vous avez pensé de la prestation des Lensois. On tentera d'y répondre au cours de l'émission. On reviendra également sur l'actualité de notre Racing Club de Lens, des féminines au U19, avant de jouer notre quiz habituel à la pause. Et puis, en deuxième partie d'émission, notre entretien avec Maxime Masson, présentateur de l'émission Le Débrief de notre cher championnat de Ligue 1 et invité de cet épisode. Salut Maxime, bienvenue.
Bonjour à tous, grand plaisir d'être parmi vous. C'est vrai que, à l'inverse, j'avais reçu Valentin il y a quelques semaines pour parler du RC Lens sur la chaîne Twitch de la LFP, enfin de la Ligue 1. Et c'était l'occasion de renvoyer le ballon, donc c'est un grand plaisir d'être là avec vous ce soir.
Bah avec toi, on reviendra justement sur le parcours du Racing, les émotions que tu as vécues lors de cet exercice 2022-2023. Et puis évidemment, on évoquera les moments marquants de cette saison. Et évidemment, en dernière partie d'émission, on se projettera sur l'avant-dernier match de la saison, le dernier au Stade Bollaert, Lens-Ajaccio. Bref, encore une fois, un programme très chargé, messieurs. Et pour t'entourer, Maxime, un trio de choix. Oh, qu'il a douté sur le but l'orienté, comme au moustoir, des hauts, des bas, mais surtout des débats. Antoine est avec nous ce soir. Salut Antoine.
Salut Lucas et salut à tous les supporters du Racing Club de Lens.
Lui ne doute jamais, au milieu comme en défense, sûr de sa force et de sa connaissance. Notre senior Onana à nous, Guillaume, est là également. Salut Guillaume.
Salut Lucas, bonsoir à tous les supporters lensois et notamment à un petit garçon qui fête ses 6 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire Gaspard.
Joyeux anniversaire Gaspard, de toute l'équipe. Enfin, lui n'arrive même plus à s'inquiéter de quoi que ce soit. La force tranquille, telle Brice Samba, la main sur le ballon sur la ligne, mais surtout le sourire aux lèvres. Hugues complète notre trio. Salut Hugues.
Bonsoir Lucas et bonsoir à tous les spectateurs de Culture Sans Erreur.
Voilà, l'introduction est faite, place à la première mi-temps. De votre côté, vous qui nous regardez actuellement en live, n'hésitez pas à réagir dans le chat de l'émission. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Et surtout, rendez-vous sur notre site culturesandor.com. Vous y trouverez plein d'articles, évidemment, sur le Racing, ainsi que nos anciennes émissions. Un début de match fébrile, des contrôles manqués, une erreur de Medina, la première, on y reviendra. Le but, l'orienté, la réaction, le pressing, Thomasson, l'égalisation. Sotoka, le deuxième, un réveil opportun. Un grand Gradit, un grand Onana, le danso d'un soir à faire danser le moustoir. Des frissons, le sourire de Brice Samba et puis Seco. Oh, Captain Seco, son 7e but de la saison en Ligue 1 pour nous emmener loin. Grâce à sa victoire 3-1 face à Lorient, Lens a fait un grand pas vers une qualification directe en phase de poule de la prochaine Ligue des Champions. Mais avant d'évoquer l'Europe, avant d'évoquer tout ça, premier tour de table, messieurs, un mot, un seul, pour qualifier la victoire lensoise face à Lorient. Et on commence par toi, Guillaume.
Tu me prends de court, là, franchement. Je ne vais pas dire mythe, je passe mon tour.
Je reviens vers toi après. Vas-y, Hugues.
Pour moi, ce serait importante parce que c'était vraiment l'occasion de creuser l'écart sur l'OM qui avait perdu la veille. Donc, dans ce genre de cas, on a peut-être une fébrilité de se dire qu'on a une occasion en or et on a vu que lors de plein de saisons, Lens avait raté ce genre d'occasion. Bah, là, ils ne l'ont pas raté.
Importante pour toi, Hugues. Antoine, un seul mot.
Tu m'en donnes 3 ?
Allez, je t'en donne 3 puisque Guillaume n'en a pas donné.
Champions League Project.
Entendu dire Ligue des Champions en français, ça aurait fait 3.
Maxime, je te laisse les sous-titres.
Maxime, un mot peut-être.
Moi, j'aurais dit symbolique parce que elle représente un petit peu quand même toute votre saison, tant en termes de caractère qu'en termes de réussite. Pas chance, mais réussite. Et d'allant pour aller chercher justement tous ces points, etc. Donc, on y reviendra après, mais symbolique.
Guillaume, l'inspiration.
Ouais, je vais dire continuité par rapport à la série là, qu'on est en train de faire, 9 matchs, 9 victoires en 10 matchs. On est un peu dans le momentum, bon, même on peut dire momentum aussi, quoi. On est dans un autre moment de fin de saison, le sprint c'est pour nous et on sent que on a réussi à étirer ce sprint jusqu'au bout et c'est ce qui va faire la différence.
Ça y est, je pense que j'ai lancé Guillaume, j'ai lancé la machine Guillaume. Guillaume, as-tu douté après l'erreur de Medina menant au but l'orienté à la 6e minute?
Douter, je dirais pas ça, puisque voilà, je regardais le match avec un petit garçon de 6 ans qui m'a dit papa, il reste encore 85 minutes. Donc voilà, il n'y avait pas de doute à avoir. Néanmoins, ça ne fait pas plaisir de démarrer un match de cette façon. Et un peu à l'image du match contre Reims, un démarrage de match un peu en demi-teinte et quelque part un fait de jeu un peu défavorable qui réveille un peu l'équipe lensoise et qui ensuite bah, met son se met en marche avec tout ce que ça comporte derrière en termes de pressing, d'intensité, d'étouffement de l'adversaire. Et puis après, les buts arrivent de façon assez. Même si ce n'est pas forcément des buts sur des actions très construites, néanmoins, ils arrivent parce que les Lorientais, à un moment, ils résistent et ils peuvent plus résister, puis ils commettent des erreurs, quoi.
Maxime, je te vois valider de la tête. Tu es d'accord avec Guillaume?
Oui, je suis assez d'accord. Alors moi, j'ai raté le but lorientais parce que je sortais, je commentais le match du Stade de Reims. Donc le temps d'allumer Canal dans ma voiture, j'ai raté ce but qui m'aurait permis de retrouver peut-être un petit peu espoir pour la Ligue des Champions. Mais le reste de la partie n'a fait que confirmer ce qu'on voit de vous depuis maintenant 36 journées, à savoir une solidité, un état d'esprit, je le répète, de la réussite, mais positivement, et puis un allant pour justement aller toujours chercher, même dans la difficulté. On l'a vu à Reims il y a quelques semaines aussi. Quand les faits de jeu sont contre vous, il y a quand même cet allant et ce dépassement pour justement aller contre les faits de jeu négatifs. Voilà, c'est à ça qu'on reconnaît une saison fantastique et un dépassement dans ce qu'on peut imaginer en début de saison pour un club de milieu ou première partie de tableau qui va aller casser les bonbons aux grosses équipes de championnat. Donc ça arrive, on l'a vu avec Lille il y a quelques années, avec Montpellier, eux ont été jusqu'au titre. Bon là, ça tombe contre trop fort, mais la saison est magnifique et je trouvais que le match d'hier ressemblait quand même, enfin, symbolisait pas mal tout ce qu'on a pu voir de positif depuis le début de l'année, voire même déjà depuis l'an dernier.
Ouais, c'est la première fois hein, cette saison en Ligue 1 que Lens commet une erreur qui amène à un but. Hugues, qu'as-tu pensé de la réaction lensoise?
Bah, j'ai trouvé que les images qu'on voyait de Franck, c'était qu'il était serein, qu'il n'avait pas envie particulièrement de disputer ses joueurs, qu'il savait qu'il y avait des choses en place. Je trouvais que ce qui s'était passé avant ce but l'orienté était plutôt rassurant. Et ce qui s'est passé ensuite, c'était que la pression était encore plus forte encore. Donc, moi, ça m'a un peu rappelé un Lens-Lille de triste mémoire où il y a une touche de Jonathan Clauss qui donne lieu à un but lillois. Mais la réaction, elle est complètement différente. C'est-à-dire qu'au lieu de se stresser, cette équipe va encore mieux poser son jeu, encore être plus concentrée. Et évidemment, je pense que tous les supporters lensois se sont dit, oui, on a le temps, on est quand même bien supérieur, on gagnait les duels, on avait des joueurs qu'on n'a même pas vu que Kevin Danso était absent, tellement Onana était vite et bien dans son match. On a vu que Florian Sotoka faisait des choses. Donc, il n'y a pas eu d'inquiétude, à mon avis.
Ouais, on y reviendra notamment sur les prestations de Florian Sotoka et de Junior Onana. Antoine, évidemment, quel pressing de Thomasson sur le but lensois. J'imagine que ça a dû te rendre fou.
Alors pour la petite anecdote, moi j'étais dans le train entre Barcelone et Madrid et il faut savoir qu'il n'y a absolument pas de connexion Internet, donc c'était absolument insupportable de suivre ce match pour moi. Maintenant je l'ai revu à tête reposée en arrivant chez moi et effectivement, il y a un Twittos qui m'a fait la remarque, ce but de Thomasson ressemblait un tout petit peu à celui de John Utaka sur le pressing dans cette zone du terrain contre le Milan AC dans les heures très glorieuses qu'on je l'espère, retrouvera bientôt. Effectivement, Thomasson, sur son pressing, tout comme dans un contrôle extraordinaire qu'il réalise ligne de touche quelques secondes avant, bah, encore été un des grands artisans de ce retour. Il apporte beaucoup de sérénité dans le jeu, de technicité, aussi bien dans les petits espaces que dans les ouvertures. Voilà, que dire, hein, le Savoyard est une arme.
Maxime, nous, chaque semaine, on est dithyrambique hein, sur Adrien Thomasson. Ton avis peut-être sur cette recrue qui est plus qu'une simple recrue hein, pour le moment.
Bah, ça prouve l'intelligence quand même dans le fait de cibler les bons joueurs à des postes clés depuis quelques mercato. Pour ne rien vous cacher, quand j'ai vu les premières rumeurs à l'été, les rumeurs de départ, je me suis dit, malheureusement, ça va peut-être être les fameux clubs qui font une super saison et qui sont dépouillés l'année d'après et qui ont du mal à s'en remettre. Notamment pour Kalimuendo, pour Doucouré, bref, pour les gros départs, plus Fofana, où à l'époque, on ne savait pas trop s'il allait rester. Et au final, on voit que les joueurs qui étaient importants l'an dernier ont été remplacés, les joueurs qui étaient déjà bons l'an dernier ont pris une autre dimension cette année, et les recrues hivernales, en l'occurrence Fulgini et Thomasson, se sont ultra bien intégrés. C'est une preuve de plus de la sérénité et du bien-être quotidien que doit être d'être joueur du RC Lens dans ces conditions actuellement. Et aussi, d'une certaine façon, ça valide forcément le travail de votre cellule de recrutement qui fait peu ou pas d'erreurs pour le moment. Et je pense sincèrement que sans Fulgini et Thomasson, alors bon, c'est du football fiction, mais en tout cas qu'eux ont été d'une très bonne aide et d'un grand intérêt dans le liant qu'il y avait à faire peut-être parfois entre le milieu et l'attaque. Et cette deuxième partie de saison quasiment parfaite est aussi à mettre à l'actif de ces deux joueurs-là qui se sont parfaitement intégrés et qui... c'était pas gagné parce que, encore une fois, Thomasson, il sortait d'un contexte complexe à Strasbourg. Fulgini, c'est un retour en Ligue 1. Et malgré tout, ces deux joueurs-là ont très bien performé, se sont parfaitement intégrés. Donc, chapeau.
Vas-y, Antoine.
Pour rebondir sur ce que disait Maxime, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu fais une première partie de saison déjà extrêmement. Extrêmement bonne avec David Pereira da Costa, mais David Pereira da Costa, on est encore sur un joueur qui est sur courant alternatif, et tu te renforces avec, bon, il y a Claude Maurice qui se pète à ce moment-là, mais tu te renforces avec deux valeurs sûres de Ligue 1. Donc forcément, tu ne peux qu'améliorer en fait le rendement de cette équipe. Il a fallu que la grève prenne, mais au final, à part 2-3 matchs où on a un peu pêché par la finition, très rapidement, en fait, les joueurs se sont intégrés dans le système, et comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans les émissions précédentes, bah clairement des joueurs comme Thomasson et Fulgini ont clairement, je pense, permis au RC Lens de passer un cap sur cette deuxième partie de saison.
Ouais, surtout je pense qu'ils ont été là également hein, quand certains cadres étaient un peu moins là. Et un cadre, bah, c'est Seko Fofana sur ce sprint final, il est exceptionnel. L'ancien Strasbourgeois a rendu hommage justement hein, à son capitaine, à son leader. 3 buts, une passe décisive en 3 matchs. Guillaume, Seko Fofana, on le retrouve au bon moment. C'est l'homme de ce sprint final, selon toi ?
Seko, c'est l'homme des grands matchs. C'est l'homme des grands matchs. C'est même dans la saison, il a eu effectivement une période compliquée, mais un peu à l'image aussi de l'équipe. Hein. Alors, je ne sais pas qui est responsable de qui, entre justement la mauvaise forme de l'équipe ou la mauvaise forme de Seko, mais alors, les trajectoires, en tout cas, se sont un peu été parallèles. Mais Seko, c'est l'homme des grands matchs. C'est quelqu'un qui. Mais je pense que ce n'est pas l'homme des grands matchs pour briller ou pour se mettre en avant lui. C'est juste que ces moments-là où il faut être encore plus calme, peut-être prendre encore une dimension plus importante, il dégage aussi toute ce charisme. Et je pense qu'il emmène aussi son équipe par rapport à ça. C'est un vrai leader, mais dans un sens vraiment positif. Ce n'est pas un leader qui veut tirer la couverture à lui. De temps en temps, effectivement. C'est lui qui emporte la décision, et il le faisait d'ailleurs beaucoup plus peut-être l'année dernière, et cette année l'équipe étant peut-être encore plus forte, il n'a pas eu besoin aussi pour un moment d'aller chercher des victoires dans les arrêts de jeu comme il nous l'avait fait en 2021-2022. Finalement cette année on n'a pas eu besoin de ce Seko, on va dire, buteur, et vraiment buteur en fin de match, mais par contre dans les matchs qui ont compté
6 barres quand même, 6 barres et poteau hein, avec 7 buts. Ouais, mais 6 barres et poteaux avec 7 buts, enfin, c'est quand même énorme.
Ce que je veux dire, c'est qu'en fin de match, l'année dernière, il nous avait donné des victoires dans les arrêts de jeu. Cette année, on n'a pas eu besoin de ces victoires dans les arrêts de jeu. Et par contre, il a mis des buts très importants, et notamment dans le sprint final. Et voilà, pour moi, ce que j'aime, c'est ce côté, malgré tout, leader, altruiste, qui de temps en temps prend la lumière, mais ce n'est pas quelque chose qu'il recherche. Voilà. C'est induit par son caractère.
Il y a un autre cadre hein, qui s'est réveillé, justement, et ça fait du bien de revoir Florian Sotoka marqué. Messieurs, premier but en Ligue 1 depuis octobre 2022 face à Lyon, 26 matchs de disette avant ça. Hugues, un peu de soulagement hein, de voir Florian Sotoka, même s'il a bon, le ballon est contré, il a un peu de chance, mais but quand même.
Eh ben justement, des fois, on met tout ce qu'il faut, tous les ingrédients, quand on est attaquant, et on ne marque pas. Et là, c'est une frappe, on ne sait pas trop si elle est cadrée à l'origine, et il marque quand même. Ben, ça prouve que le football, c'est vraiment beaucoup d'incertitudes. Et par exemple, Loïs Openda aussi peut en témoigner, qui, à certains moments, mettait encore plus d'énergie, il ne marquait pas, et puis d'un coup, il s'est débloqué. Bon, ben, on est tous contents pour Florian Sotoka, qui a été extrêmement précieux sur le côté droit dans son alliance avec Przemyslaw Skłonkowski. Ils ont été, en fait, un problème insoluble pour les Violentés tout au long du match. Il y a eu évidemment beaucoup d'activités sur les ballons hauts, sur les replis défensifs de Florian Sotoka, comme toujours. On adore cet enthousiasme et on se dit, en Ligue des Champions, c'est un joueur que les adversaires vont découvrir et ne connaissent pas encore. Et ils ne vont pas comprendre, comme beaucoup d'équipes de Ligue 1 n'avaient pas compris en début de saison à quel point il était fort. Eh ben, peut-être qu'au niveau au-dessus, il peut encore nous surprendre. En tout cas, il ne s'est pas posé de limite, il ne se pose pas de questions, et cette frappe le montre.
Ouais, Maxime, tu sembles d'accord avec ce que dit Hugues. J'ai l'impression c'est un joueur assez rare, Florian Sotoka, sur un terrain de football, non?
Rare, atypique, et j'aime bien l'idée de ne pas trop l'analyser. Je pense que c'est un peu, il dégage en tout cas cette image-là de joueur pas inoffensif, loin de là, mais sur lequel l'adversaire va peut-être pas se concentrer ou moins se concentrer en regardant surtout un Openda, un Fofana. Ou la charnière, par exemple, pour les phases offensives. Alors que lui a montré quand même qu'il pouvait être décisif, il pouvait être couteau suisse, il pouvait être un sacré passeur. On l'oublie, et vous parliez de ses buts, mais je note surtout sur sa première partie de saison une qualité de dernière passe qui a régalé une partie de ses collègues. Donc, c'est aussi plaisant de voir ce type de joueur avec un parcours professionnel. Pas forcément dans ce qu'on peut voir aujourd'hui, des jeunes joueurs qui explosent tout dès 17, 18, 19 ans et qui arrivent dans un top club. C'est aussi important de voir ces joueurs-là plus besogneux, avec une carrière peut-être plus atypique, réussir et bien réussir. Donc oui, ça fait aussi partie des belles histoires qui sont racontées au travers de ces 2 dernières saisons chez vous.
Une autre belle histoire, Hugues en parlait tout à l'heure, mais c'est toi, Guillaume, à qui je vais poser la question. Quel match, encore une fois, de Jean Onana, excellente doublure de Salis Abdeslamed. Il a été impérial face à Lorient en remplaçant de pas n'importe qui, Kevin Danso, qui est plus qu'un cadre dans l'effectif lensois. Junior est-il justement amené à avoir un rôle de senior, d'une certaine façon, à un moment, Guillaume?
Tu dis encore une fois, bon, honnêtement, pour moi, c'est son meilleur match sous les couleurs lensoises. Il nous l'avait quand même montré aussi, c'était en Coupe de France, hein, où il avait joué également derrière, mais dans une défense à 4. Et de toute façon, il avait fini le match contre Reims quand on était repassé on va dire, en 5-3-1 ou en 3-5-1, peu importe. C'est lui qui était rentré, il s'était bien mis entre Grady et Medina. Et donc, effectivement, c'était un signe que Francaise donnait pour moi, pour la compo d'hier. Et c'est vrai qu'il a fait un bon intérim à la place d'Abdoul Samed, mais dans un rôle donc de numéro 6, on va dire. Et là, moi, j'ai trouvé que ce rôle de pilote de la charnière centrale, ça lui va à merveille. J'ai l'impression qu'il a le jeu devant lui. Ce n'est pas un joueur forcément très rapide, Jean Nana. Il a par contre une belle qualité on a vu du jeu long qui était superbe. Et je pense qu'au milieu de terrain, il a pas forcément, il est plus dans le trafic, il est peut-être un peu plus pressé. Et le jeu long, ils entrent peut-être un peu moins. Là, je l'ai trouvé vraiment très fort dans la relance et dans l'analyse du jeu. Et après, les interventions défensives, c'est pareil, des bons placements, couplés au bon moment. Et franchement, c'est peut-être un avenir pour lui. Je pense même, peut-être même plus, il a peut-être plus d'avenir à ce poste que sur le pur poste de numéro 6. Peut-être, alors je ne sais pas, les dirigeants, quand ils l'avaient recruté, je pense quand même que c'était plutôt dans un poste de milieu. On se posait beaucoup la question, Danso, si Danso un jour se blesse, il a fait quasiment tous les matchs, qui va le remplacer? Alors On essaie de bricoler des charnières, mais finalement, la réponse, elle était, on l'avait, bah, j'imagine que le club et Francaise l'avaient déjà anticipé, lui, mais Jean Nonna, là, sur ce rôle, c'est un match exceptionnel qu'il nous a fait.
Ouais, Antoine, tu sembles d'accord avec Guillaume. En plus, en fait, Jean Nonna l'avait dit juste avant la rencontre qu'il aimait être défenseur central, justement pour avoir tout le jeu devant lui. Antoine, ta réaction par rapport justement à la prestation de Onana?
En fait, Onana, on oublie qu'il a 23 ans, on oublie qu'il est arrivé à Lille, qu'il a été recruté par Luis Campos. J'invite les gens à faire une petite recherche Onana-Luis Campos. Vous verrez les déclarations dithyrambiques de Luis Campos à son égard. Quand il a été prêté à Moucron, il avait joué en défense centrale. Et on est face à un joueur avec un potentiel de malade. On ne l'a pas beaucoup vu parce qu'effectivement, ça tourne très fort. Salis était indiscutable en poste de sentinelle. Dans le saut, on n'en parle même pas. Mais c'est un joueur qui a un profil. J'ai envie de m'enflammer, mais c'est un joueur qui peut jouer central, milieu défensif. Aujourd'hui, il y a un club en Europe qui est en train de tout écraser avec un joueur qui a ce profil-là. C'est Manchester City avec Stones. Moi, je pense que Onana, on va voir comment va se passer le mercato. Mais demain, si Danso part, la solution, tu l'as. Et c'est un joueur qui te permet, en cours de match, de passer d'un système 3-4-3 à 4-3-3 en transition. Sur une transition, en fait, tu peux complètement changer de système de jeu. Et pour moi, on a beaucoup critiqué son recrutement parce qu'il venait d'un club qui descendait en Ligue 2, qui était dans une situation sportive et extrasportive absolument lamentable. Et beaucoup ont questionné son recrutement. Aujourd'hui, on se rend compte qu'encore une fois, en fait, les contextes, tout simplement, les contextes à Bordeaux, le contexte était extrêmement défavorable. Il arrive à Lens, il a pris son temps, il a appris dans l'ombre de Salis, dans l'ombre de Danso. Quand on a besoin de lui, il répond plus que présent. Et le match, je suis d'accord avec Guillaume, le match qu'il a sorti à Lorient, c'est son meilleur match. Il a une qualité technique exceptionnelle. Il fait des roulettes. Il est tout le temps semelle sur le ballon en défense centrale. Il apporte une sérénité, une qualité dans la relance. Enfin, pour moi, c'est un joueur. Je pense que la saison prochaine, il va pousser très, très, très fort pour entrer dans le 11 titulaire.
Ouais, y a Thomas Corré justement sur le chat qui nous dit « Notre club recrute des profils et des mentalités de joueurs. » Exactement. Ne regarde pas trop les contextes en fait, des clubs. Quoi.
Les profils, c'est exactement ça, les profils.
Ouais, un mot peut-être, messieurs, Hugues, sur les finisseurs, comme les a appelés Francaise en conférence de presse, évidemment, hein, en rappelant les finisseurs de Fabien Galtier du 15 de France, ces entrants en fin de match qui ont peut-être changé aussi la mentalité, qui ont donné peut-être, on va dire un dernier push, un peu d'énergie en fin de match.
Foudlini, on le sait, très précieux dans la conservation du ballon, qui va toujours trouver les bonnes passes, et c'est lui qui décale Fofana, il me semble, au départ sur le... Non, c'est lui que Fofana décale sur le troisième but, et il réussit à percer, en même temps temporiser, faire ce bon centre vers Claude Maurice qui rate son contrôle. On se dit, moi, en vitesse réelle, je me dis, il le laisse passer, c'est incroyable. Quelle prévoyance, il a vu ce qui se passait dans son dos, il a vu Seko Fofana qui arrive à 200 à l'heure. Non, il rate son contrôle, bon, ben, Seko Fofana qui en profite. Bon, Claude Maurice, on a moins le temps de le voir. Et Massado Haïdara, toujours très précieux, lui aussi, qui... rassure une défense, pareil, il est capable de mettre le pied sur le ballon. Alors là, on a quand même beaucoup de joueurs, y compris Brice Samba, qui sont capables de jouer très, très tranquillement. Mmh. On a derrière l'impression qu'il y a une telle maîtrise technique. Et c'est ça qui me frappe dans cet effectif en soi par rapport à d'autres époques, par rapport aux champions de 98, c'est qu'on a une facilité technique à chaque fois chez les 11 qui est quand même assez effarante. Enfin, moi, j'ai rarement vu de la circulation de balles aussi efficace. Je crois que j'ai jamais vu de la circulation aussi efficace dans un RC Lens, de quelque époque que ce soit. On a vraiment extrêmement peu de passes ratées. Et ça fait vraiment plaisir, ça.
Oui, tu as raison. En plus, efficace, on a le ballon, on a les passes et on en fait quelque chose, quoi. Alors, messieurs, on a évoqué plusieurs individualités. On va tenter d'en noter quelques-unes, notamment certains Lensois dont on n'a pas tellement évoqué. Alors, vous allez me donner la note que vous auriez mis à certains joueurs et on veut surtout une explication. Maxime, on commence par toi. Quelle note sur 10 aurais-tu donné à Frankowski qu'on n'a pas tellement évoqué pour l'instant?
C'est difficile pour moi, n'ayant pas vu l'ensemble de la rencontre, de donner une note sur ce match-là, en l'occurrence. J'ai vu que des résumés du premier quart d'heure, donc difficile d'établir quelque chose sur le but lorientais. Néanmoins, sur l'ensemble de sa saison et sur ce qu'il a prouvé encore hier, c'est un élément fiable qui serait, à mon sens, titulaire dans approximativement toutes les défenses à 5 de Ligue 1. Rien que pour ça, ça en dit long quand même sur la constance et les capacités, les compétences du garçon. Je le trouve toujours rassurant dans le sens où je ne l'ai jamais vu. Peut-être que, alors, je ne regarde pas les 90 minutes à chaque fois, donc permettez-moi quelques erreurs si j'en dis, mais je ne l'ai jamais vu vous mettre en difficulté ou je ne l'ai jamais vu faire une boulette impactante dans le résultat d'un match.
On confirme.
On te confirme, ouais.
Donc, ouais, Hugo Rémy 10, donc on confirme.
Ben voilà. Donc, au-delà de mettre une note, c'est vraiment, ça fait partie des joueurs qu'on a découverts chez vous, comme on découvre aussi beaucoup de Toulousains ou de clubs qui vont recruter un peu plus loin que les sentiers connus. Et ça fait partie des top joueurs de championnat qui ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur. Donc, surtout sur un poste de piston droit qui n'est pas, même si aujourd'hui essentiel, qui n'est pas celui qui prend le plus de lumière. Donc chapeau à lui.
Et on pense quand même à Jimmy Cabot, hein, qui est blessé, mais qui aussi avait tenu pas mal en fait le côté droit à un moment. Guillaume, Salis Abdoul Samed, une petite note pour notre numéro milieu de terrain, pardon.
Je lui mets entre 5 et 6, c'est pas un match où on l'a vu énormément, je trouve. C'est un match, c'est un bon match correct de sa part. C'est pas quelqu'un qui m'a sauté aux yeux et qu'on a forcément beaucoup vu durant la partie. Par contre, il n'a pas fait d'erreur, il n'est pas impliqué sur les buts offensivement non plus, mais bon, toujours dans son intelligence de placement, dans le pressing, quand il a fallu que toute l'équipe aille au charbon pour inverser la tendance. Il était là et Konana, ils étaient tous les deux. C'était eux qui étaient un peu les derniers relanceurs parce qu'en fait, l'orienté, ils étaient à 11 dans leurs 30 mètres. Et nous, le lanceur le plus bas, c'était Onana qui était à 30 mètres de son but avec 5 mètres juste devant lui. Quoi. Et puis, on faisait droite, gauche et on tournait autour de la défense lorientaise. Donc, il a fait son match, je mets entre 5 et 6. Ouais.
Ça marche, Antoine. Openda, match compliqué pour notre Belge. 2 tirs, dont un tir cadré, je crois.
Ouais, bah là pour le coup, Openda, on l'a pas trop vu. On attend toujours sa célébration
en avion.
On attend toujours sa célébration en avion. J'espère qu'elle viendra samedi. Effectivement, un match compliqué pour un attaquant quand on le voit pas trop et qu'on voit pas qu'il se procure pas trop d'occasions, c'est difficile de mettre au-dessus de la moyenne. Donc je lui mettrai 4.
Hugues Brissamba.
C'est bien.
Alors, c'est un match contrasté pour lui parce qu'il a très peu à faire en fait. Et il y a cette touche de Medina laquelle il peut arriver quand même plus vite, se dire attention, il y a un gros danger tout de suite et il peut foncer et aller mettre une mine dans les tribunes. Ce qu'il ne fait pas, donc ça commence assez mal. Ensuite, il a presque rien à faire puisque offensivement, Lorient a proposé un match vraiment pauvre. Et à la fin, il fait l'arrêt qu'il faut. Alors, dans son style caractéristique, avec les pieds, très bon joueur de pied, y compris défensivement, pas que offensivement. C'est-à-dire qu'il est capable de contrôler un ballon et puis ensuite d'aller prendre avec les mains. Il a toujours cette capacité à serrer les jambes, en fait. C'est là où c'est très fort sur cet arrêt. C'est qu'elle arrive à un endroit où beaucoup de gardiens la prendraient entre les deux jambes et lui, il les serre et il arrête le ballon. Et, quelle note je vais lui mettre Allez. 6 pour cet arrêt, quand même.
Ouais, c'est mérité, 6. Sur ce match, messieurs, auriez-vous des cartons rouges ou des cartons verts à donner? Je le rappelle pour Maxime. Carton rouge, bah, ce que tu n'as pas aimé. Un carton vert, ce que tu as aimé, justement, que tu as apprécié. Messieurs, rien du tout? Si, Maxime, vas-y.
Non, j'allais dire moi d'entrée. Ça rejoint un petit peu ce que je disais en introduction quand tu m'as donné la parole sur le mot du match. C'est carton vert dans le sens, ça confirme, et je ne dis pas ça parce que je suis invité dans une émission spéciale de RC Lens, mais ça confirme que ce club-là mérite cette place, mérite cette deuxième place, fait une saison fantastique, est capable de renverser une rencontre, et ce n'est pas juste une équipe qui est solide à domicile et qui a eu un peu de chance par moment à l'extérieur. Non, c'est plus que ça. Et voilà, pour moi, ça confirme ce match-là est révélateur, même si, bon, Lorient, on pensera ce qu'ils veulent, c'est, ils sont à moitié en vacances, on ne va pas se le cacher, c'est des 36e journées, il n'y a plus grand-chose à tirer en termes de conclusion sur certaines équipes qu'on voit. Mais malgré tout, voilà, c'est un match qu'il fallait gagner, que vous jouez après l'OM, avant Paris. Dans le timing, voilà, il y avait la pression à mettre sur le PSG au cas où. Et encore une fois, on pourra revenir sur la saison au sens large, mais il ne manque pas grand-chose pour que la saison soit génialissime, à défaut d'être déjà exceptionnelle, quoi.
Ouais. Antoine, tu te voulais réagir peut-être à ça?
Ouais, non, bah en fait, moi, mon carton vert, c'est pour Seko Fofana, parce que tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Guillaume, même si je trouve qu'en fait, Seko Fofana, en fait, il attire la lumière par lui-même. En fait, c'est... On se rend pas compte, en fait, je crois, encore, on n'a pas suffisamment de recul pour voir vraiment la puissance du joueur, du capitana qui l'incarne. Comme le disait souvent Greg ici présent, c'est quelqu'un qui est hyper investi au quotidien dans le club, jusque des fois dans le choix des maillots, dans le choix des vestes des joueurs quand ils arrivent sur des terrains, etc. Enfin, il va très très loin dans l'investissement personnel, et là, ce qu'il est en train de réaliser, en fait, c'est, pour moi, c'est, on parle, je suis généralement pas trop fan des analogies avec les sports américains, mais c'est le franchise player du RC Lens, et j'ai envie de pousser encore plus loin le truc. Ce qu'il fait en ce moment, pour moi, c'est notre Michael Jordan, en fait. C'est vraiment, il est en train de nous sortir en ce moment les prestations XXL. Quand en fait, tu es dans des moments où tu as besoin d'un joueur qui te sort des prestations XXL. Et moi, ce joueur m'a bluffé là, sur cette dernière ligne droite. Et je pense que si on a bien un aujourd'hui qui symbolise cette ligne droite en pleine trombe, pour moi, c'est Seko Fofana.
Vas-y, Guillaume, tu levais la main.
Ouais, moi j'ai un carton rouge aussi. C'est carton rouge pour Lucas Collin, ne nous a pas mis Medina dans les joueurs à noter. C'est quoi ce parti pris de l'émission? Non, mais Facundo, franchement, j'ai mis un petit carton rouge parce que c'est son plus mauvais match depuis qu'il est. Alors, il nous a déjà fait des matchs mauvais, mais il n'était vraiment pas dedans. Carton rouge pour l'ensemble de son œuvre, il a été pas loin du carton rouge d'ailleurs. Et puis, c'est vrai que cette action-là où on prend le but. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas, pour moi, responsable à 100% de ce qui se passe. Il y a aussi Sambok qui en a un petit peu pour sa part aussi, parce que je le trouve assez calme, assez tranquille, alors que là, quand il voit que le pressing arrive, on sent qu'il ne met pas l'énergie qu'il faut. Mais voilà, il ne nous a pas habitués à des matchs comme ça, Facundo. Donc, dans 99% du temps, on n'a que des louanges à dresser sur ses prestations. Et là, hier soir, c'était un jour sans. Et malgré tout, ça n'a pas perturbé Onana, qui aurait pu être perturbé justement, parce que quand Danso cartonne, c'est parce qu'il a Grady et Medina à côté de lui. Et bien, hier, Medina était un peu défaillant. Mais par contre, Grady, lui, était vraiment exceptionnel, et Onana aussi. Donc, ça a compensé globalement l'équilibre de l'équipe.
Merci, Guillaume, de remettre l'église au centre du village. Mais sans présentateur suspendu, qu'est-ce que vous allez faire, messieurs? Alors, juste avant de siffler la mi-temps, quelques informations concernant l'actualité du Racing Club de Lens. Hein. Chez les jeunes, les U19 de Johan Desmond se sont imposés face à l'estac d'un ancien de la maison, Alou Diarra. 4-3, avec notamment une deuxième mi-temps un peu folle, je ne sais pas si vous avez suivi, 600 personnes ont assisté plus ou moins à la rencontre, la tribune Marek était ouverte, et voilà, les U19 hein, qui affronteront Nantes en demi-finale de play-off, il me semble. Un mot peut-être, messieurs, rapide sur cette prestation, je ne sais pas si vous avez suivi, sinon on continue. Les filles, défaite de l'équipe de Sarah Mbarek dans le derby face aux Lilloises, 1-0 des Lensoises qui avaient pourtant à cœur hein, de laver l'affront du match aller 6-1, mais que l'efficacité a fui durant toute la rencontre. Elles devront valider leur maintien en D2F ce dimanche face au CA Paris lors de la dernière journée. Ça va être tendu. Hein. Dernière journée tendue, un mot? Non,
ouais, bah Lille réalise une saison absolument en D2 féminine. Alors bon, qu'on perde deux fois contre cette équipe-là, c'est logique.
C'est sûr, ouais, c'est... Vas-y.
Pour revenir sur la prestation des 19, en fait, tu te rends compte que cet été, enfin, le club a réorganisé sa structure au niveau des équipes de jeunes, et que ça porte ses fruits. Ouais. Et qu'au final, tu te rends compte, encore une fois, c'est pas pour, encore une fois, dire du bien de ce qui se fait dans ce club, mais malheureusement, on ne peut que dire du bien de ce qui se fait
Heureusement.
Ouais, non, mais c'est incroyable, en fait. C'est là où tu dis qu'on est, on est vraiment dans un management de très, très haut niveau et à tous les niveaux. On a les dirigeants ont commencé par l'équipe 1 et puis on a ensuite posé les jalons dans les équipes N3, malheureusement, puisque l'équipe est descendue en l'équipe réserve en N3 et puis on est en U19. Et tu vois les résultats qui arrivent rapidement. Donc voilà, c'est tout est aligné en ce moment.
Le haut niveau, on va voir, messieurs, si vous en avez durant le quiz, car c'est là-dessus que je siffle cette première mi-temps. Et donc voilà, comme je l'avais dit, hein, donc à la mi-temps, un petit quiz, une petite mort subite par équipe, comme vous en avez l'habitude. Alors, j'ai fait un tirage au sort juste avant l'émission. Hugues et Maxime, vous êtes ensemble. Vous
ferez Désolé.
Équipe et vous serez opposés à Antoine et Guillaume. J'ai l'imprime écran du tirage au sort. Je vous promets, je vous enverrai la preuve. Alors messieurs, j'en parlais tout à l'heure en introduction. Florian Sotoka n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 2 octobre 2022. C'était face à Lyon. À tour de rôle, un membre de chaque équipe devra me donner un des 22 joueurs titulaires de cette rencontre. 22, au moins Maxime, il pourra aussi piocher chez les Lyonnais. On le rappelle, Lens l'avait remporté 1-0. N'hésitez pas, vous qui nous suivez sur le chat, à donner également hein, vos joueurs. On va voir si vous en avez plus que nos chroniqueurs du jour. Allez, honneur à l'invité Maxime. Tu commences un joueur de Lens-Lyon d'octobre dernier, s'il te plaît.
Brice Samba.
Oui, c'est bon. Alors, équipe Antoine-Guillaume, s'il vous plaît.
Anthony Lopez.
Oui, c'est bon. Vas-y, Hugues.
Eh bien, Florian Sotoka.
Eh bien, oui, c'est bon, Florian Sotoka. Il s'est fait peur. Vas-y, Antoine.
J'irai Taliafico.
Oh là là, Taliafico, c'est bon.
À part sur des gros risques, là, quoi.
Ouais, oui, c'est ça, il faut sur des gros risques. Attends, Maxime.
Bah, la casette.
La casette, c'est sûr, c'est du certain, ça. Continue.
Kevin Danso.
Yes.
C'est Seko Fofana.
Bah oui, c'est cool, c'est cool. Les deux capitaines ont été nommés.
Loukeba.
Loukeba, Loukeba. Pourquoi tu vas chercher un Loukeba? Pourquoi va-t-il chercher
un Grabit et un Medina à disposition?
Pourquoi va chercher un Loukeba?
Parce que j'ai du panache, monsieur.
C'est faux, Loukeba. Bon, l'équipe Maxime, Hugues, donnez-moi un de plus et c'est bon.
Maxime, vas-y, conclue.
Bah, Anto Lopez.
Ah, c'est déjà été donné.
Oh, pardon.
Allez, on repart.
Non, non, on reprend la main, là.
Et reprend la main, vas-y. Allez,
Gradit, Jonathan.
Eh ben non, Gradit n'était pas là non plus.
Ah bah oui, c'est vrai, il était blessé.
Hugues, tu peux terminer. Là, parce que là,
trois
mauvaises réponses dessus. À un moment.
Salis, Abdoul, Samed.
Voilà, c'est gagné pour l'équipe.
Oh là là. Le tocard.
Bon, bah, j'espère que dans le chat, ils ont plus. Aïdara, Medina, Cabo, Abdoul Samen a été dit, Machado, Openda, Pereira da Costa, ce qui manquait côté Lensois, Enrique, Thiago Mendes, Diomande, Le Penant, Kakure, Tété, tête, Cherki, Toko et Kambi, c'est ce qui manquait du côté lyonnais. Alors voilà, bon, il a gagné, vous l'avez vu, vous l'avez entendu.
Bravo.
Vous avez entendu sa voix.
Il nous a fait une Medina. Pour une fois, il fait une boulette, relance en arrière, et voilà. Et...
Nivellement par le bas, à côté de moi, j'avais Antoine qui me sort un loup des bas, et du coup, et moi, ça me perturbe.
Et pour une fois que je suis avec lui, bah, je perds encore, voilà.
Ouais, la doublette Samba-Medina aux abois. Donc comme je le disais, on passe à la deuxième mi-temps, vous l'avez vu. Si vous nous suivez sur YouTube, vous l'entendez. Si vous écoutez le podcast actuellement, Maxime Masson est avec nous aujourd'hui. Alors sur Twitter, vous le connaissez sûrement sous son pseudo Maxime Vandrel. Et surtout, bah, vous l'avez vu, son visage sur Twitch, peut-être dans l'émission Le Débrief de la Ligue 1. Maxime, encore une fois, merci d'être avec nous. Alors, très simple, hein, première question. Est-ce que tu peux te présenter d'abord en quelques mots? Et que fais-tu dans Le Débrief? C'est quoi Le Débrief en fait?
Alors, Le Débrief, c'est une émission mensuelle qui est diffusée donc sur la chaîne Twitch de la Ligue 1 Uber Eats, qui revient avec des joueurs et des consultants tirés des communautés de chacun des clubs, pardon, qui revient sur l'actualité, les derniers matchs de la Ligue 1, sur lequel donc on fait, comme son nom l'indique, des débriefs. Et vous nous avez fait l'honneur de passer justement via Valentin il y a quelques semaines pour parler du sprint final qui à l'époque démarrait il y a 5-6 semaines. Et l'idée, oui, c'est de recevoir, on a reçu par exemple Adrien Thomasson, j'invite tout le monde à aller voir la petite interview, on a reçu Adrien Thomasson lors de la dernière émission. L'idée, c'est de mixer voilà, entre consultants, journalistes, supporters, joueurs, de refaire vraiment une émission d'actu, alors que les autres émissions de la Ligue 1, enfin sur la chaîne Twitch, sont plutôt soit des émissions de divertissement, soit des émissions un petit peu archives. Celle-ci, en tout cas, est l'émission actu.
Alors, et toi, en tant qu'amoureux de la Ligue 1, quel regard as-tu sur le parcours de Lens? Est-ce que tu as un lien même avec le Racing personnel ou...
Un lien personnel, j'ai des souvenirs d'enfance forcément, je dois être l'un des plus jeunes du plateau du soir, mais étant né au début des années 90, moi mes premiers souvenirs post-Coupe du Monde, où je commence vraiment à m'intéresser au foot, c'est forcément la Ligue des Champions que je regardais en famille le mercredi enregistré du mardi soir, avec le fameux Lens Arsenal ou le Lens Dynamo Kiev, qui sont des matchs qui m'ont un petit peu marqué, comme le Nantes, juste après des années suivantes, a pu me marquer en Ligue des Champions avec Roger Zabel sur TF1. C'est un peu avec cette culture-là que j'ai grandi, avec ces gros bastions de Division 1 de l'époque. Donc forcément, il y a une connexion sentimentale parce que j'ai grandi avec ces clubs-là, j'ai plus grandi avec le RC Lens, avec Nantes, avec Lyon, qu'avec des clubs sans leur porter préjudice, enfin, mais que Metz, ou encore que Metz, où il y a la Coupe de la Ligue et le but de Moreira, mais c'est Coupe de la Ligue ou Coupe de France ? Je ne dis pas de bêtises. Coupe de la Ligue. Donc, mais voilà, j'ai plus de souvenirs qui me connectent au RC Lens qu'à pas mal de clubs en France. Et puis, pour revenir sur la saison, moi, c'est vrai qu'en commentant les rencontres du Stade de Reims à domicile, j'ai eu l'occasion de vous commenter cette année. J'ai eu l'occasion de commenter l'an dernier aussi. Et en plus d'être toujours des bons moments parce que ça chante, sur le parvis, c'est convivial, c'est familial, il y a du monde, il n'y a pas d'accroche entre les supporters. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai jamais vu. C'est toujours bienveillant. Et je trouve que déjà ça, pour ça, bravo et merci, parce que je pense que ça en manque un peu dans d'autres stades et avec d'autres communautés. Et puis, pour parler jeu, je pense que cette saison, elle confirme le travail qui a été effectué depuis plusieurs années, et notamment vos deux dernières saisons. Merci pour le but de Ganago l'an dernier. Évidemment, je ne saurais vous dire comment j'ai célébré ce but. Mais c'est aussi important qu'un club qui a travaillé à remonter et à remonter dans de bonnes conditions et qui a travaillé à rester puis à intégrer le top 10 de façon permanente et faire très bonne figure en Ligue 1, c'est important que ces clubs-là soient récompensés. Ça ne veut pas dire que tout est acheté à Marseille, à Monaco, à Lyon, même si sur certains de ces trois clubs-là, il n'y a quand même pas grand-chose de positif cette année. Mais ce n'est pas parce qu'on dit bravo Lens qu'on dénigre ce que les autres clubs avec plus de budget font. Et juste, quand ça travaille bien et que ça se concrétise par une Coupe de France avec Toulouse ou par une deuxième place pour vous, c'est aussi la loi du sport. Et juste bravo, et bravo aux dirigeants, bravo aux joueurs, bravo aux coachs. Donc, par rapport à ça, moi, je suis très serein, je n'ai aucun problème, même si ça me fait un peu mal de devoir aller jouer contre contre un club grec début août, mais je n'ai pas de problème à dire bravo et à dire que c'est largement mérité.
Ouais, parce qu'on ne l'a pas encore dit, hein, mais oui, Maxime est supporter de l'Olympique de Marseille. En tant que suiveur, Maxime, dirais-tu que Lens est un exemple à suivre d'une certaine façon ?
Alors, forcément oui. De par ce qui est montré depuis quelques années on le disait, hein, le recrutement, le profilage des joueurs, la mentalité, le fait de mettre en place quelqu'un qui a des idées plus qu'un nom et de lui laisser du temps, tout ça, c'est forcément des choses qu'il faut mettre à l'actif du club. Après, je pense que ce qui marche à Lens ne peut pas être copié-collé ailleurs non plus, parce que bah, à Lens, il y a déjà une ferveur populaire qui fait que quand ça joue un peu et même quand ça joue moins, bah, c'est toujours chiant d'aller jouer à Bollard pour un adversaire. Et tous les clubs de Ligue 1, voire de Ligue 2 qui ont des ambitions, ne peuvent pas encore se targuer d'avoir ça. Ça reste, je pense, un bastion fort de foot et une ville forte de foot avec un ancrage local important. Et ça, c'est pareil. C'est pas toutes les villes de France, peu importe leur taille, qui ont la chance d'avoir, de pouvoir placer le foot au cœur de leur ville. Je pense à Toulouse, qui est, par exemple, plus une ville de rugby qu'une ville de foot. Et forcément, il y a des idées à... Ça prouve que quand on travaille, on peut réussir. Alors, ça ne se valide pas forcément par des titres, parce qu'il faut une... Surtout en Ligue 1, aller chercher une Ligue 1, c'est quand on n'est pas Paris aujourd'hui, il faut que les planètes s'alignent d'une façon absolument phénoménale. Mais encore une fois, tout ne se valide pas par des trophées. Et au final, il n'y a qu'un vainqueur, ça ne veut pas dire qu'il y a 19 perdants. Et vous êtes depuis 3 ans des gagnants année après année par rapport à ce que vous montrez, ce que l'équipe dégage et ce que le club lui-même dégage depuis plusieurs années.
Moi, de toute façon, tu parlais de trophées, moi ça me fait penser au trophée UNFP quand on voit le nom de Lensois mentionné en tout cas dans ces trophées, c'est quand même une petite victoire. Messieurs, est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse un peu de temps cette fois-ci. Hugues, vas-y, cuisine-moi Maxime. Tiens.
Bah, Maxime, tu travailles pour la Ligue 1, donc tu travailles pour la LFP. On sait qu'à la LFP, il y a plutôt un regard très bienveillant sur Lens, qui est un club qui apporte de grosses audiences télé, de grosses affluences au stade, y compris quand il joue à l'extérieur. Est-ce que tu es libre de dire ce que tu veux de Lens? Est-ce que tu aurais le droit de critiquer Lens?
Alors, je ne suis pas salarié LFP. C'est vrai que moi, je travaille en indépendant pour eux et j'ai la chance de pouvoir m'exprimer de façon ultra libre sur tous les sujets et tous les clubs. Parfois, quand il n'y a pas grand-chose à dire, même dans la vie de tous les jours, quand je n'ai rien à dire sur un sujet, je ne vais pas m'avancer à dire du mal ou à défoncer quelqu'un ou quelque chose pour le plaisir de le faire ou quand je ne maîtrise pas le sujet. Mais si vous étiez 19e et que vous m'aviez invité, bah, je n'aurais pas pu vous dire toutes les louanges que je viens de faire depuis 5 minutes. Et je pense que personne ne m'en aurait voulu au service média de la LFP.
Antoine, Guillaume, une question peut-être? Pas tellement, pas de réaction. Si. Vas-y Antoine.
Non, moi c'était plus sur qu'est-ce que... Pour Maxime, le RC Lens apporte entre guillemets à la Ligue 1, sachant que voilà, il a déjà un peu. Mais quel est l'impact en fait pour lui d'un RC Lens dans le foot français, vu sa position forcément de non-supporter lensois et aussi des discussions qu'il peut avoir soit avec les gens de la LFP à qui il propose des produits, mais aussi avec les communautés d'influenceurs avec qui il est forcément amené à échanger.
Je pense que dans l'externalisation du produit Ligue 1 au sens large, Lens peut être un vecteur de valeur et d'impact positif, comme Strasbourg peut l'être, comme des clubs qui ont, comme Saint-Étienne s'ils étaient amenés à remonter, comme Bordeaux s'ils étaient amenés à remonter. Je ne dis pas que la Ligue 1 doit être uniquement faite de clubs historiques, mais il ne faut pas se le cacher, c'est plus facile de vendre un Lyon-Saint-Etienne à l'étranger qu'un 3-Brest, bien que peut-être un jour 3 et Brest seraient 4e et 5e de Ligue 1. Malgré tout, aujourd'hui, on est sur une valorisation de produits qui dépend plus de l'image que du contenu, parce qu'à l'étranger, on ne regarde pas les 38 fois 10 journées de Ligue 1. Donc, malgré tout, il faut des histoires. Il faut raconter des histoires. C'est un peu le tout le problème et la dualité aussi d'aujourd'hui de vendre du foot. C'est, il faut d'un côté des histoires, il faut de l'autre côté que le sportif soit en corrélation avec l'histoire qu'on raconte. Sinon, ça ne tient pas debout non plus. Et malgré tout, bah, oui, forcément, Lens, de par sa position, de par son histoire, de par aussi, pour le coup, sportivement, le jeu proposé et les joueurs qui rejoignent X et Y clubs depuis plusieurs années et que vous fournissez en France et à l'étranger, bah forcément, le Lens pourrait, je le pense en tout cas, aider à la vente et à l'augmentation du produit Ligue 1 à l'étranger. Et je pense que justement, la Ligue des Champions peut, à ce titre-là, si vous faites de belles performances, être à l'image, moi j'étais un peu petit, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait un impact positif, que Lyon avait, Lyon, Lens, Nantes aussi, Lille, quand ils font un exploit en Angleterre en Ligue des Champions, je suis désolé de le dire, mais ou que l'OM va tabasser Manchester United sur le but de Galas, etc. C'est des performances qui marquent à l'étranger et qui permettent de valoriser un peu le championnat, et je pense que le championnat en a bien besoin.
Guillaume, tu voulais rebondir, j'imagine, sur l'image de Lens à l'étranger. Tu voulais parler de Bollard, c'est ça?
Non, moi j'avais une question pour Maxime, mais c'est un peu d'ailleurs la prolongation de ce que tu viens de la fin de ton propos. C'est un peu là-dessus que je voulais me tourner. C'est plutôt sur la saison prochaine et notamment la Ligue des Champions 2023-2024. Quand le duel Marseille-Lens faisait rage, hein, c'était il y a déjà très, très longtemps maintenant, puisque le duel pour moi est terminé. Mais il y a eu des petits débats dans les médias nationaux que nous, en tant que supporters lensois, nous ont un peu émus, à savoir comme si on avait un manque de légitimité ou comme si pour le football français, il fallait plutôt que Marseille se qualifie, enfin, soit deuxième et que nous soyons troisième. Donc bah, nous, on a expliqué par plein de raisons qu'on pensait que de toute façon, c'était au mérite. Et moi, j'aurais aimé avoir ton avis là-dessus. Mais juste avant, je voulais vous dire que pour le football français, ce qui aurait été la meilleure solution, c'est que Lens soit champion. Parce qu'en tant que champion, on aurait été chapeau 1 en Ligue des Champions. Puisque quand tu es champion, tu as la place réservée. Et Paris, deuxième, aurait été chapeau 2. Tandis que là, on se retrouve chapeau 4 et Paris chapeau 1. Donc pour le football français, il aurait fallu que Lens soit champion. Ça, c'est dit. Et donc maintenant, par rapport à ça, par rapport à Marseille plutôt, et le fait qu'en fait, on a l'impression qu'on vient un peu manger dans la cour des grands et que comme si on n'était pas invité et qu'on n'avait pas le droit d'y venir alors qu'on l'a mérité sur le terrain.
Moi, je suis pas totalement. Enfin, je comprends totalement le point de vue et je le partage. Enfin, je partage pas cette histoire de vous êtes deuxième, mais ce serait bien que vous soyez troisième parce que au final, le championnat de France ou en tout cas le coefficient UEFA aurait besoin de Monaco et de Marseille. À un moment donné, il faut être assez logique et assez transparent sportivement. Le deuxième mérite d'être deuxième, point. Et donc, il a les avantages du deuxième, c'est-à-dire bon, d'être chapeau 4, malheureusement, pour une première année de retour. Bon, c'est un fait, mais ça changera peut-être avec le temps. Et quoi qu'il arrive, Monaco, Marseille, encore plus, enfin, n'ont pas fait des performances européennes qui permettent de laisser penser que c'est plus intéressant de les avoir eux que d'avoir Lens. Après, je peux entendre, entre guillemets, mais là, c'était dit, je pense, sous forme de critique. À l'inverse, je pourrais entendre l'histoire de si vous vous faites dépouiller complètement et que sportivement, comme on a pu le voir avec certaines équipes qui ont fini un peu deuxième ou troisième surprise ces dernières années et qui n'ont pas confirmé derrière, bon, ça va encore faire un club français qui potentiellement va tomber contre dans un groupe avec City, Dortmund, l'Atlético Madrid et Lens, pas facile. Pas facile.
Messieurs, City,
le Borussia risque de finir champion et que du coup, plutôt que le Borussia, on va se taper le Bayern. Mais nous, c'est ce qu'on veut. Nous, c'est ce qu'on veut. On veut le plateau royal.
Mais après, c'est ça. Je pense que aujourd'hui, toutes les communautés regardent ça sous leur prisme à eux, en pensant que y a toujours des histoires de. On a l'impression, par exemple, quand on parle de la saison de Marseille qui est troisième, on a l'impression, même à l'intérieur même de la communauté marseillaise, que l'équipe est dixième et qu'il faut tout casser, tout refaire, tout. Et il n'y a pas de nuance. Et peut-être que vous ferez des performances l'an prochain en Ligue des Champions, ou même une troisième place et un quart de finale de Ligue Europa, ou que sais-je, qui vont permettre qui vont vous permettre de regrimper un peu le classement du COEF UEFA. Et quoi qu'il arrive, bah, je ne pense pas que vous ferez pire qu'un OGC Nice qui se fait taper par balle cette année en Conference League, ou qu'un Monaco qui a été quand même particulièrement ridicule en Ligue Europa, ou même qu'un Marseille qui, même si c'est à doser, a tout perdu sur un but à la 94e minute. Chacun a sa chance d'y aller, chacun met ses armes pour bien performer, et de toute façon, il y a assez eu de performances ridicules des clubs français depuis 15 ans pour que si l'année prochaine vous êtes dépouillé et que vous finissiez quatrième de votre groupe de Ligue des Champions, techniquement, les chapeaux 4, ils ne sont pas censés finir premier de leur groupe de Ligue des Champions. Donc, ouais.
Alors Antoine, juste très rapidement.
Mais ça sera juste très très rapide. Mais en fait, là, je trouve qu'on parle trop vite. En fait, Lens va finir deuxième. Hein. On a encore deux matchs à jouer. Je tiens juste à donner une petite anecdote. J'ai un pote à moi, bon, j'habite à Madrid, pour Maxime, qui fait partie d'une peña de Independiente. Et j'ai un ami à moi qui est allé voir un match de l'Independiente une fois avec donc, ce pote argentin, et qui m'a raconté qu'il avait eu le malheur de célébrer un but avant que le ballon ne soit rentré dans les filets. Il a failli se faire fracasser par les supporters argentins. Il y a des pays dans lesquels on ne célèbre pas avant que ça se passe. Donc moi, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul là. C'est samedi qu'on fera la fête. Aujourd'hui, on est encore en course pour la deuxième place. On a quasiment fait le travail. Mais il reste une victoire à aller chercher pour se qualifier pour la seconde place. Pour l'instant, on est en ballotage très très favorable, mais s'il vous plaît, tranquille, encore un petit peu.
C'est exactement ce que j'allais dire, Antoine. Donc tu me fais la transition parfaite pour notre projection sur le Lens Ajaccio de ce samedi. C'est surtout la dernière du Racing à Bollard cette saison. Hein. Alors Francaise espère une belle fête, nous aussi, une dernière communion entre les joueurs et leur public, si important, essentiel cette saison. Il est là l'enjeu du match, en plus des points, remercier également les supporters. Allez, qui veut prendre la parole peut-être? Maxime, alors, ce sera toi.
Bah, déjà, je pense que les 37e et 38e journées, c'est généralement pour faire des fêtes pour ceux qui se maintiennent ou qui ont fait des belles performances, ou quand bien même de dire merci à une équipe que tu as supportée toute une année. Sauf pour ceux qui tombent, où c'est un peu plus complexe. En l'occurrence, bah, comme le disait Antoine, vous avez encore quelques points à grappiller pour être définitivement tranquille. C'est Ajaccio. Je pense que sans leur faire offense, tout est réuni pour que la fête soit belle ce week-end. Ils ont l'air un peu sous l'eau depuis quelques semaines. Je ne suis pas persuadé, à moins que d'un craquage mental, mais que vous n'avez pas fait contre Marseille, ni ce week-end, ni contre Reims. Je ne vois pas, sans leur manquer de respect, Ajaccio venir conquérant et retourner Bollard un jour de fête comme ça.
Hugues, toi, tu crois au craquage mental?
Non. Et bon, ça rappelle, comme bon souvenir, c'est de recevoir un club corse vers la fin de la saison avant d'aller à Auxerre. Bon. Mais il faut se souvenir que ce Lens Bastia, il avait été mal lancé en 1998. Et donc, même si à l'époque, Bastia n'avait pas non plus grand-chose à jouer, on ne sait jamais. Il peut toujours y avoir des petits détails. En foot, ça va très vite. Hein. Il suffit d'une action, d'une touche mal faite, d'une bousculade qui aboutit à un carton rouge et un pénalty. Bon, ben voilà. Alors après, on connaît cette équipe et on sait qu'elle est concentrée jusqu'au bout. Qu'elle a préparé avec trop d'applications pour laisser tomber juste à la fin. Donc moi, je crois à la victoire.
Guillaume, ton avis, est-ce que Lens peut craquer dans ces derniers deux matchs?
Non, mais moi, je ne vais pas vendre un faux suspense. Hein. Je ne vais pas savoir inventer des même 4 pénaltys, 6 cartons rouges. Je ne vais pas savoir les trouver dans ce match-là. Je ne vois pas comment on peut ne pas battre Ajaccio. Ajaccio qui est complètement en perdition. Qui a un club qui a rendu les armes, et on peut le comprendre. Hein, et leur saison, elle est terminée, elle est complètement loupée. Ils viennent de s'en prendre 5 contre Rennes. Voilà, il y a un moment, moi, je ne vois pas ce qui peut se passer. Surtout que ce n'est pas une équipe qui nous a donné des signes de justement de. Alors, OK, sur une action ou deux, il peut y avoir des fois un peu de relâchement, mais le travail qui va être fait cette semaine par le coach, par tout ça, il leur dit bien que voilà, c'est. Effectivement, là, le classement n'est pas validé, n'est pas définitif. Il y a encore deux points à prendre. Donc, ça peut être 3 des samedis et ce serait bienvenu de gérer ça des samedis pour s'éviter un dernier match couperé à Auxerre. Parce qu'Auxerre, ils auront sûrement quelque chose de fort à jouer. Mais franchement, même en imaginant le pire, je ne vois pas ce qui peut se passer et qui nous empêcherait de valider notre deuxième place samedi, quoi.
Antoine, deux matchs pour également préparer petit à petit la saison prochaine. On a vu notamment les retours de Julien Le Cardinal, de David Dacosta, de ACM. Donc les remplaçants aussi, on leur part à jouer en fait en cette fin de saison.
Ouais, mais non, mais vraiment, moi je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. C'est-à-dire que sur le papier, effectivement, Ajaccio, tu peux pas te dire qu'ils vont venir nous embêter. Mais pourtant, c'est le football. Donc attention, n'insultons pas le football. Moi, j'aime pas jouer une équipe qui vient de prendre 5 buts à domicile. Je vous le dis franchement, j'aime pas jouer une équipe qui vient de prendre 5 buts à domicile. La dernière fois qu'on l'a fait, je crois que c'était 3, qui avait pris 5-0 à domicile ou qui avait pris une trempe, ou c'était Auxerre, je crois, qui avait pris une trempe à domicile, qui était venu à Bollard et qui nous avait posé des problèmes. À un moment, il y a deux choses. Il y a Ajaccio qui vient de se faire pulvériser à domicile, il n'a plus rien à jouer, mais ils ont de l'orgueil, ils ont de l'ego, ce sont des êtres humains comme tout le monde. Et à Lens, il peut y avoir la peur de gagner. Et ça, dans le sport, c'est hyper fréquent. Quand tu as le dernier coup de bâton à donner, des fois, en fait, tu as la main qui tremble. Donc attention, Hugues a très bien parlé du match de Bastia de 98. D'ailleurs, à ce moment-là, Bastia était la meilleure défense de D1. Mais on les avait atomisés, mais le match avait très mal commencé. Le match d'Ajaccio, on va jouer contre une équipe qui va peut-être venir avec un Lego d'avoir pris 0-5 à domicile par Rennes. Et nous, on ne sait pas. Et c'est tellement irrationnel que attention, respectons le football.
Le match avait bien commencé contre Bastia. On menait 1-0.
Oui, je suis allé le revérifier.
Ils égalisaient.
À la 50e minute, ils égalisent.
Sébastien voilà. Pérez, non ?
C'est ça.
Et après, Sico, pénalty, je crois. Il obtient un pénalty. Voilà.
Et si on fait un petit tour de pronostic, Maxime, sur ce match, quel serait ton prono, Lance Ajaccio ?
Désolé, Antoine, c'est pas pour. Moi, je pense que ça va être 3 ou 4-0.
Hugues, ton prono ?
J'espère une victoire 2-0.
2-0. Donc, une clean sheet pour l'instant pour nos deux amis. Guillaume, ton avis ? Ton prono ?
On a 16 buts de retard sur Paris à la différence de buts. Du coup, on va gagner 1-0.
Et Antoine, attention, donc évidemment, Antoine.
On va gagner, mais ça va être dur. 2-1.
Ah, donc Brice Samba prend quand même un but sur ce match, selon Antoine. C'est là-dessus, c'est sur ces pronostics qu'on va arrêter cette émission. Messieurs, merci à tous pour vos analyses. Merci à Alexis à la technique. Merci Maxime de nous avoir accompagnés. Ce fut un véritable plaisir. Tu reviens quand tu veux dans l'émission.
Plaisir partagé.
Merci à tous d'avoir suivi notre émission, cet épisode. N'hésitez pas à faire un tour également sur notre site Culture Sang et Or. N'hésitez pas à aller voir le débrief de la Ligue 1 pour voir Maxime Masson. Sur notre site, vous pourrez notamment y retrouver dès ce mercredi le débrief du match de play-off des U19 par Clément. Ce jeudi, le résumé du match des féminines sous la plume de notre cher Charles. Et dès vendredi, un article de Mathieu qui va se projeter sur le match de samedi et l'avenir de tout un club. Encore joyeux anniversaire à Gaspard, il me semble, Guillaume.
Ça.
Et surtout, nous, on se retrouve dès lundi prochain pour votre émission hebdomadaire. Ciao, salut à tous.
Ciao, salut à tous.